Vous écoutez Lille 1 Info, le magazine consacré à l'Université Lille 1, chaque mercredi entre 17h30 et 18h sur Radio Campus 106,6 FM, www.campuslille.com. Notre région est une région côtière, et oui, le Nord-Pas-de-Calais bénéficie d'un espace qui donne sur la mer. Et aujourd'hui, nous allons aborder ce thème des zones estuaires, l'aménagement des zones estuaires dans notre région, avec M. Alain Transeau, donc, qui est professeur de l'université, qui est chercheur au laboratoire CNRS Lille 1 UMR Géosystème. Donc, tout d'abord, eh bien, bonjour M. Transeau.
Bonjour.
Donc, cette région Nord-Pas-de-Calais, elle est à la fois bon, urbaine, elle a un bon cœur urbain, on va dire, hein, qui bat, qui donne de l'énergie, et elle a toute cette zone de plaine et aussi cet accès à la mer qui est assez large et qui a ses spécificités en termes écologiques, certainement, en termes d'écosystème tout au moins, et aussi en termes d'échanges avec l'extérieur, le milieu marin et avec le monde.
Oui, alors en effet, c'est une. Quand on caricature la région, on ne pense pas à la région, à la partie côtière de notre région Nord-Pas-de-Calais. Et en effet, il n'y a qu'à se rendre sur le site internet de la région, par exemple, pour se rendre compte comment est valorisée cette région en termes touristiques, en termes d'espace de loisirs, de plein air, etc. Donc effectivement, toute cette zone côtière représente un grand attrait pour la région et pour les gens qui sont de la région, pour leurs habitants, d'une certaine manière.
On ne le sait peut-être pas tous, mais la région Nord-Pas-de-Calais est la quatrième région touristique de France.
Oui, on l'oublie, en effet, même, j'avais moi-même oublié.
Alors, je suppose que ça contribue, donc, le fait d'avoir ces jolies côtes et ces endroits qui sont protégés, qui sont mis en valeur. On pourra en parler dans quelques instants. Donc, tous ces lieux attirent les gens, les amoureux de la nature.
Oui, effectivement, il y a des zones qui sont protégées, d'autres qui ne le sont pas. Il y a des zones qui sont facilement accessibles, d'autres qui le sont moins. Des zones qui sont, pour des publics très larges, des plages simples, si on va dire, comme à Dunkerque, des parties peut-être à... pour des publics plus avertis où c'est plus des aspects de randonnée ou des aspects écologiques qui sont intéressants. Mais effectivement, c'est une côte qui est diversifiée et qui est intéressante et qui n'est pas si loin que ça des grandes métropoles que sont Lille et les métropoles voisines. Oui.
On va aujourd'hui parler plus spécifiquement des zones estuaires dans notre région. Qu'est-ce qu'on entend par zone estuaire ?
Alors les zones estuaires, ce sont les zones qu'on peut appeler aussi estuariennes, mais qui sont les zones où sont présents des estuaires. Donc un estuaire correspond en fait à un fleuve. En France, on fait la distinction entre fleuve et rivière. Le fleuve étant la rivière qui se jette dans la mer. Et en effet, dans la région Nord-Pas-de-Calais, du sud au nord, on a toute une série de fleuves qui se jettent dans la mer, plus ou moins petits. Ce ne sont pas des très grands fleuves. On a l'Authie qui marque la limite entre le Pas-de-Calais et la Somme, puis la Canche, il y avait la Somme bien sûr beaucoup plus au sud, et puis tout un certain nombre de plus petits estuaires que sont par exemple la Slack qui arrive en Bleuteuse, si je ne m'abuse. J'ai oublié la Liane sur Boulogne-sur-Mer qui aujourd'hui ne ressemble plus du tout à un estuaire. Et puis l'ancien estuaire de la Haye qui ne ressemble plus non plus à un estuaire. Donc ce sont les zones où l'eau douce en provenance du continent rencontre l'eau marine et donc à l'occasion de ce brassage des eaux, eh bien, il y a tout un tas de phénomènes sédimentaires, biologiques, chimiques qui se mettent en place dans ces régions-là.
Alors quand vous dites qu'ils ne le sont plus, on peut dire que la géographie et la géologie, c'est quelque chose de variable à l'échelle du temps et que des zones qui sont estuaires ne le sont plus.
C'est tout à fait vrai. En effet, quand on regarde ne serait-ce que les cartes anciennes, les cartes mérovingiennes par exemple, on se rend compte que la configuration de la plaine maritime flamande, pour que les gens situent, ça commence à peu près à Calais et ça se prolonge sur la Belgique jusqu'aux Pays-Bas. Cette grande plaine était à l'époque mérovingienne une zone tout à fait différente de la situation actuelle, à savoir donc un grand... par là un grand estuaire ou plutôt un delta, et puis cet estuaire rentrait jusque dans le marais de Saint-Omer. Donc à cette époque, le marais de Saint-Omer était un estuaire en comblement, et donc à l'échelle humaine, mais pas seulement à l'échelle humaine de très nombreux siècles, à l'échelle historique, on voit une modification du paysage, une fermeture progressive de ces estuaires. C'est le cas pour celui-là, c'est le cas du Havre de Berck, par exemple, que certains connaissent peut-être, qui est une zone qui était ouverte. D'accord, voilà.
Alors, si on prend une ville comme Montreuil-sur-Mer, elle était au départ sur mer, ça a beaucoup évolué là.
Ça a beaucoup évolué, alors est-ce que ça a été sur mer en effet peut-être à 8000, 7000 avant aujourd'hui, hein, donc ça fait moins 6000, moins 5000. Sur mer, c'est vrai, on a travaillé il n'y a pas longtemps avec un collègue du laboratoire sur une épave dans le cours de la Canche qui date du 15e siècle, et c'était une épave qui, à l'évidence, ne pourrait plus aujourd'hui naviguer dans nos eaux. Donc ça montre bien qu'en effet, il y avait un accès à la mer qui était beaucoup plus facile. Donc les preuves sont historiques. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui change à l'échelle humaine, en fait. Hein, en effet, oui. Mais ce n'était pas vraiment la mer au sens où on entend la plage, je pense, à l'échelle historique, hein, quand même.
Ça a dû changer quand même les repères des générations et aussi l'activité économique liée à ça.
Oui, alors des collègues de l'île 3 ou des collègues étrangers ou des collègues plus archéologues pourraient bien mieux en parler que moi de ça. C'est vrai qu'on suit au gré des avancées, des reculs de la côte, les migrations des populations. Les populations se rapprochent de la côte, et puis quand la côte devient trop dangereuse, pendant les périodes par exemple où il y a un surcroît de tempêtes, les populations se reculent, rentrent un peu dans l'intérieur des terres, et puis suivent. Il y a à la fois une attirance vers la mer pour des raisons de commerce, et puis il y a une question de danger, un risque de submersion éventuelle, et donc la population suit. Ça se suit, c'est très bien documenté, il y a beaucoup d'études encore qui sont en cours là-dessus, mais ce sont les archéologues essentiellement qui travaillent là-dessus, les historiens également.
Donc si on prend le cas des falaises, on a de très belles falaises, Cap Grinet, Cap Blanet, etc. Qu'est-ce qui les menace ? C'est la mer ou c'est l'eau ou les terrains qui sont... Enfin, je veux dire, est-ce que l'origine des problèmes sont intérieures ?
C'est une question pas facile parce que ce sont des choses qui reculent à une vitesse relativement lente, mais de façon brutale. Le Cap Blanet est un très bon exemple pour ça. Sur certaines photos aériennes, on ne peut pas noter de différence depuis 50 ans sur la position de la marche, si on peut dire, même s'il s'agit d'une grande marche. Et puis, brutalement, sous l'effet souvent de conjonctions climatiques et puis des causes qui sont liées au massif rocheux lui-même, eh bien, tout un pan de falaise recule. Donc, il y a des raisons qui sont liées à la géologie, c'est-à-dire à l'histoire, en l'occurrence crétacée, de la falaise, et puis des raisons purement, on va dire, hydrologiques, la quantité d'eau qui est tombée par jour, etc. Donc, mais c'est un processus qui est tout à fait épisodique, en fait. C'est pas un recul progressif, c'est un recul par pas brutaux, ce qui rend les abords relativement dangereux, surtout en cette période-ci où il fait relativement humide.
Est-ce qu'on peut parler par contre d'ensablement de certaines zones qui font que des habitations sont menacées ?
Alors, c'est vrai que dans le premier cas, des habitations sont menacées par les chutes de falaises, enfin par les reculs de falaises. À Vimereux, par exemple, ils ont, plutôt que de sauvegarder à tout prix certaines maisons ou la falaise, ils ont choisi de détruire certaines maisons. Des maisons sont en effet soumises à des ensablements. Il y a eu le cas dans la baie de Vuissant en particulier qui subit tous les problèmes qu'on peut retrouver le long des littoraux, à la fois des problèmes d'érosion à certaines zones, des problèmes d'ensablement. Il y a un lotissement qui avait été construit il y a une vingtaine d'années dans les environs de la dune d'Aval, qui a été une année après sa construction complètement envahi par les sables, et on pouvait voir le niveau du sable au niveau des vasistas, au niveau des velux, on pourrait dire aujourd'hui, au premier étage. Donc il y a des régions qui sont relativement menacées par le sable.
Donc, vous travaillez pour un laboratoire CNRS. Quelles sont les implications de votre laboratoire ? Sur quelles problématiques il intervient dans ces zones-là ?
Alors, nous, on intervient absolument pas comme aménageur. Notre intérêt à travailler sur les zones estuariennes vise à améliorer la compréhension de ces zones, à améliorer la compréhension des mécanismes qui font que ces estuaires se comble, que certaines zones de l'estuaire sont sensibles alors que d'autres sont en érosion. Donc ce sont des problématiques d'ordre général, enfin d'ordre historique, on va dire géologique, même si c'est une géologie de période relativement courte, puisqu'on a vu tout à l'heure que l'homme pouvait intervenir là-dedans. On n'intervient absolument pas en ce qui concerne tous les problèmes d'aménagement, par exemple. On n'est pas dans cette démarche-là.
Donc ces zones estuaires, elles évoluent en fonction, j'allais dire, de la nature ou en fonction aussi de ce que les hommes éventuellement posent comme problème?
Alors, elles évoluent du fait de la nature, bien évidemment, hein, la houle, la marée, les apports de sédiments des fleuves, tout ça fait évoluer les estuaires. Et si l'homme n'avait pas mis pied en rive droite, en rive gauche de ces estuaires, il continuerait à évoluer sans que ça nous gêne. Simplement, on a placé des villes, on a placé Berck-sur-Mer, on a placé le Touquet, on a placé tout un tas de villes. Et donc aujourd'hui, l'homme, parfois pour assurer une certaine navigabilité des fleuves, parfois pour protéger les habitations qu'il avait placées, intervient, met en place des digues, met en place des protections du littoral. Et donc on ne peut plus vraiment, à proprement parler, d'environnement naturel, sensu stricto. L'emprise de l'homme est telle qu'aujourd'hui, il faut qu'on compose entre les forces de la nature et les impératifs de l'homme, en fait, là-dedans.
Quand on parle de fleuves, souvent on imagine des rivières immenses qui se déversent dans la mer ou dans l'océan. Il existe des fleuves relativement petits où la circulation, on va dire, navigable est impossible. Mm-hmm. Donc, quelles sont les voies de navigation qui existent à partir de ces estuaires ?
Aujourd'hui, il suffit d'aller interroger des anciens, malheureusement anciens, pêcheurs d'étapes, ou de voir des photos, ne serait-ce qu'il y a 50 ans, à Étaples, où on voyait qu'il y avait une flotte de pêche permanente. Aujourd'hui, il n'y a plus de bateaux de pêche à proprement parler, il n'y a plus de chalutiers, même de pêche côtière. Donc ils sont partis soit vers le Tréport au sud, soit vers Boulogne-sur-Mer au nord. Donc en fait, ces estuaires sont relativement peu navigables pour de la pêche, pour de la pratique commerciale, si on veut. Et donc ces estuaires, aujourd'hui, sont des lieux de plaisance pour la voile. Donc ce ne sont plus, à proprement parler, des voies de navigation autres que celles de la plaisance, donc les planches à voile, les optimistes, des choses comme ça.
Donc ces zones estuaires sont assez particulières dans la mesure où elles sont des écosystèmes tout à fait particuliers. Est-ce qu'il faut les protéger? Est-ce qu'il faut développer ces zones pour les rendre inaccessibles au public ou à d'autres contraintes? Est-ce que vous avez des préconisations à faire?
Alors, ce serait un peu difficile de me lancer sur le débat de faut-il ouvrir, faut-il rendre plus facile l'accès au public de ces zones qui sont effectivement à protéger. Ma conviction est qu'effectivement il faut les protéger et que donc le fait que ces zones soient relativement d'accès pas évident limite un peu l'accès du public. En même temps, je pense qu'en développant des chemins d'accès, comme ça peut être fait en vallée de Canche, où on a des chemins bien balisés desquels il est impossible de sortir, des points d'observation de la faune avicole, des pontons pour passer les zones plus humides, je crois qu'au contraire, en amenant du public sur ces zones-là, ça lui permet de découvrir un milieu qui est très complexe, qui est de prime abord pas aussi excitant que pourrait l'être une plage pour un petit enfant qui voudrait aller se mettre dans l'eau, mais ça permet aux gens de justement de découvrir ces milieux, mais de manière, on va dire, cadrée par même s'il s'agit de grillages ou par des pontons. Donc, je pense qu'au contraire, il faut développer la possibilité d'aller voir ces choses-là.
Alain Transeau, cette zone est très particulière. Les évolutions se font sur des millénaires souvent. Mm-hmm. Est-ce que l'étude de ces évolutions présente un intérêt sur les perspectives que ces zones ont sur leur avenir et sur comment on envisage soit la vie, soit l'activité touristique ou économique?
Alors, je ne suis pas certain d'avoir complètement bien saisi la question, mais comment dire, Je pense que dans ces zones-là, il y a une sorte de mutation des métiers. Hein. Je parlais tout à l'heure des pêcheurs qui ont dû aller dans d'autres zones. Donc il y a plus une évolution des pratiques dans ces zones-là qu'un changement total de l'environnement. Enfin, je réponds pas très bien là, mais j'ai pas tout à fait bien saisi la question, je crois.
Je veux dire que est-ce qu'on peut prévoir des évolutions qui font que l'homme, l'activité, devra s'adapter à des changements ?
Alors, l'homme s'adapte en effet. Des changements sont. On a quand même suffisamment de recul par les études qu'on a pu faire ou que d'autres personnes en géographie physique ont pu faire. On a suffisamment de recul pour se rendre compte qu'en effet, la tendance généralisée qui est l'ensablement rive gauche, sur une échelle assez grande, disons, à l'échelle du demi-siècle, l'ensablement en rive gauche de tous les estuaires et l'érosion en rive droite, même s'il y a des zones où ça s'ensable, cette évolution n'a pas de raison de s'arrêter. Ça pose beaucoup de problèmes. Ça pose en particulier beaucoup de problèmes en Bédotti, où on a des villes comme Groflier dont les terrains sont en dessous des niveaux des plus hautes mers. Donc c'est des zones qui sont inondables en cas de rupture du cordon littoral qui est constitué là par de la dune. Et en fait, on ne peut pas vraiment avoir de certitude quant à la date à laquelle cette rupture aura lieu. Mais il est fort probable que si on n'intervient pas, alors on a le choix, hein, soit on intervient lourdement pour protéger, soit on décide de ne pas intervenir et de laisser la nature reprendre un peu de sa place. Mais c'est évident que l'homme va devoir s'adapter et c'est évident que des changements vont avoir lieu dans ces zones-là. Après, la question sera partiellement au moins financière. Faut-il mettre de l'argent pour protéger à tout prix la dune ou les gens, ou faut-il au contraire laisser un peu plus de place à la nature ? Là, la question, elle est en particulier d'ordre financier.
Pas loin de notre région, il y a les Pays-Bas qui ont une grande expérience en termes de polder. Est-ce que ça peut inspirer des solutions ou créer justement une expérience qui permette de s'appuyer sur elle ?
Alors je crois qu'en effet, les Pays-Bas, c'est un très bon exemple. Ils ont exporté la technique de la polderisation chez nous depuis quasiment un millénaire, peut-être un peu moins. Et de la politique des Pays-Bas, suite aux tempêtes assez importantes qui ont lieu en février 53, ils ont écrit sur la loi que le trait de côte était une ligne immuable qui devait être protégée et préservée à coup sûr, enfin de manière certaine. En France, on n'a pas eu une démarche aussi législative. Mais aujourd'hui, les Pays-Bas changent un peu de fusil d'épaule en se disant peut-être qu'en laissant la nature reprendre pied sur certaines zones, on aide au maintien de la ligne du trait de côte comme on la connaît à l'heure actuelle. Et en France, il est question, par exemple, pour protéger certaines zones, de choisir de réouvrir certains polders plutôt que de maintenir à tout prix des défenses qui coûtent cher. Donc il est question, c'est le cas en particulier dans la Somme, il y a des projets, ça pose beaucoup de problèmes socio-économiques hein, dans les régions, mais on a une vision sans doute un peu différente de celle qu'on pouvait avoir il y a même ne serait-ce que 10 ou 15 ans par rapport à la réouverture possible ou non de ces zones qui avaient été, on va dire, âprement gagnées par l'homme pour faire de l'agriculture.
Alors, vous parlez d'agriculture, on pourrait peut-être parler de pisciculture. Est-ce que ces zones qui sont entre la mer, donc de l'eau salée, et les zones d'eau non salée, sont des milieux privilégiés pour la faune, voire la flore ? Et comment on pourrait exploiter davantage ces zones s'il le faut ?
Alors, je ne sais pas s'il faut les exploiter davantage. C'est des milieux quand même assez fragiles. Et puis, des milieux qui changent vite, même à l'échelle de l'année. Un chenal peut être en rive gauche et puis, quelques mois plus tard, passer en rive droite. Donc, c'est des zones qui sont peut-être pas tout à fait idéales pour faire la pisciculture, comme peuvent l'être les grands abers de Bretagne. Mais c'est vrai que ce sont des zones, d'un point de vue écologique, extrêmement importants. Il y a eu des programmes financés par la région et l'État, ce qu'on appelle les contrats de plan État-région, dans lesquels des chercheurs de l'ILA ont travaillé. Et pour vraiment montrer l'intérêt écologique de ces zones-là, par exemple, comme nourrisserie des poissons plats. C'est des zones qui sont absolument indispensables pour les premières phases du développement des poissons plats. Donc après leur stade larvaire, ils trouvent dans ces zones une nourriture abondante, peut-être un calme plus, peut-être une région moins stressante que connaît la haute mer. Et donc ce sont des zones d'un point de vue développement de toute la filière halieutique qui est extrêmement, oui, elles sont extrêmement importantes en effet, oui.
On va parler un peu, M. Tronceau, de votre laboratoire. Pour travailler sur ces questions, je présume qu'il y a de nombreux types de spécialistes, géographes, bien sûr, des chimistes, des archéologues peut-être.
Oui, alors on n'a pas tout ça sous la main. Le laboratoire, il est quand même centré autour des géosciences, donc on va dire des sciences de la Terre. Donc l'essentiel des membres ont une formation qui est plutôt des sciences de la Terre, mais on a également des chimistes qui travaillent sur la caractérisation de la pollution des sédiments, par exemple. Donc c'est un rapport avec le sédiment quand même. Mais les personnes avec lesquelles on travaille, que vous avez citées, que ce soit les archéologues ou les géographes, physiciens, géographes des sciences humaines, enfin des géographes, on va dire humains, je sais. Ces personnes-là, on travaille avec eux dans le cadre de collaboration, en fait. Donc ils ne sont pas directement dans notre laboratoire. Mais ce sont des milieux dans lesquels on a besoin de travailler à plusieurs dans des spécialités différentes.
La région est en ce moment en train de réfléchir, et pas seulement de réfléchir, elle a débloqué des moyens pour redonner à l'espace Nord-Pas-de-Calais des zones où la flore et la faune seraient mieux respectées. Je parle par exemple des haies et des zones qui ont été détruites pour une agriculture intensive. Est-ce que sur cette côte, il y a également une réflexion sur l'importance de préserver la faune et la flore, de peut-être les développer? Quelles sont les espèces qui sont assez rares et qu'on voudrait protéger?
Alors, il y a des collègues du laboratoire de génétique et d'évolution des populations végétales, GEPV, là, sur l'Ilin, qui travaillent par exemple sur une orchidée relativement rare, qu'on trouve, qui est en plus avec des fleurs vertes, ce qui ne facilite pas sa détermination. Donc il y a des espèces rares, en effet, il y a des espèces de batraciens rares également. Donc il y a quelques espèces emblématiques de ces milieux compliqués qui sont rares et qu'on ne trouve quasiment que dans ces zones-là. C'est pourquoi une augmentation de la fréquentation doit être canalisée d'une certaine manière. Mais il y a une réflexion effectivement à différents niveaux de responsabilité de la région, de l'État, des collectivités locales pour justement protéger ces zones. Il y a un projet de grand parc marin qui s'appelle le parc marin des estuaires, qui pourrait s'appeler le parc marin des estuaires, donc qui irait de la baie de Somme jusque Vimereux, en fait, même un peu plus au nord de Vimereux. Donc il y a toute une réflexion sur pour faire un cadre dans lequel on essaie de faire cohabiter à la fois les gens qui vivent de la mer, que ce soit les gens qui font du tourisme ou les gens qui font de la pêche ou qui font d'autres activités éventuellement industrielles, et la vie de ces estuaires, la partie, disons, plus naturelle. Disons.
On a parlé tout à l'heure des Pays-Bas. Là, on a parlé d'une orchidée rare. Est-ce que le fait qu'on ait des particularités et des choses assez étonnante à préserver, suscite l'intérêt des chercheurs étrangers?
Alors, dans tous nos laboratoires, on a des chercheurs étrangers qui ne sont pas de nationalité française. De là à dire qu'ils travaillent là-dessus et de là à dire qu'on travaille avec des gens de l'étranger, nous, on travaille fréquemment sur ces problèmes d'estuaires avec des collègues belges, puisqu'il y a une continuité, avec des collègues hollandais également. Il y a eu régulièrement des programmes financés partiellement par l'Europe entre des équipes de l'Université Lille-1 ou de l'ULCO, hein, et puis des équipes anglaises. Donc il y a des chercheurs étrangers qui viennent chercher chez nous, aussi dans ces zones, des estuaires qui sont relativement bien préservés. C'est-à-dire que le bassin versant de ces rivières, étant, de ces fleuves, étant peu industrialisé, on se retrouve avec des conditions assez propres, voire même dont on peut à peine détecter la pollution. Donc viennent parfois justement profiter de ces espaces propres, on va dire, pour les comparer à des estuaires beaucoup plus industrialisés ou anthropisés.
Est-ce que la politique en ce domaine d'un pays peut influer sur les zones des autres pays? Par exemple, notre région Nord-Pas-de-Calais, son mode de fonctionnement par rapport à ces zones, est-ce qu'elle peut avoir une influence sur les zones qui sont belges ou néerlandaises?
Alors, je ne sais pas dans qui copie qui, mais je pense qu'en effet, il y a régulièrement, on va les histoires de dépoldérisation, c'est-à-dire de réouverture des polders à la mer, ce sont des choses qui ont été expérimentées aux Pays-Bas, qui ont été expérimentées en Angleterre et qui ont donné envie à certaines personnes plus attentives de le faire chez nous. Donc, je pense qu'en effet, il y a des effets de pas de copiage, mais d'entraînement, de bonnes pratiques de ces zones-là. Donc je pense qu'effectivement, les uns les autres se surveillent ou regardent ce que les autres font, voient si ça marche, pour éviter de reconnaître, de faire une seconde fois une expérience qui aurait été malheureuse. Ça peut arriver également.
Est-ce que vous auriez un exemple d'expérience malheureuse ou de problème particulier qui touche tous ces pays?
Alors, dans les autres pays, j'ai pas d'expérience malheureuse, mais on pourrait quasiment dire que des expériences malheureuses, il y en a quand même pas mal sur la région, mais qui sont des expériences qui sont liées à l'histoire, en fait. De tout temps, l'homme n'a pas mis ces villes-là, n'a pas mis ses maisons sur le trait de côte lui-même, mais bien en arrière du premier rang de dunes. Et puis, c'est l'explosion du tourisme qui a fait qu'un certain nombre de villes se sont mises en place sur les dunes, par exemple Vimereux, par exemple 800, etc. Donc, des villes qui sont aujourd'hui un endroit où la mer avait l'habitude de venir, repartir, revenir, repartir, et en y mettant des structures dures, on empêche cette respiration de la mer sur le trait de côte. Et donc, d'une certaine manière, c'est une expérience qui est malheureuse, mais il est trop tard, si on veut dire, pour revenir en arrière. On ne va pas redétruire toutes les maisons d'il y a 100 ans, 150 ans. C'est malheureusement un peu tard, de ce point de vue-là.
Si vous aviez un vœu pour 2012, dans ce domaine?
Vœu, c'est que les gens qui connaissent pas bien ces estuaires aient la curiosité d'y aller, éventuellement même en dehors des périodes estivales qui sont sans doute les plus agréables pour le soleil, mais même en période quand il y a du vent, ce sont des zones qui sont agréables à visiter, ou même s'ils ne sont pas agréables, qui sont belles et qui sont peut-être un peu dures du point de vue de l'approche, mais qui sont vraiment extrêmement belles. Moi, je conseillerais bien volontiers aux gens d'aller y faire un tour, de chausser leurs bottes de caoutchouc et d'aller, en faisant attention pour ne pas se faire envahir, ensabler ou envaser, mais d'aller les voir, oui, il y a plein de choses à voir.
Eh bien, monsieur Alain Tronceau, je vous remercie pour ces explications.
Eh bien, merci, bonne soirée à vous.